3 novembre 1917, mourait à Bourg-la-Reine l'écrivain Léon Blois. 100 ans après, les éditions Arfuyennes publient, sous la direction du poète et écrivain Yves Leclerc, « Ainsi parlait Léon Blois », dit et maxime de vie. Grâce à cet ouvrage qui regroupe 300 fragments puisés par Yves Leclerc dans l'œuvre complète de Léon Blois, on redécouvre un auteur important de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Yves Leclerc, nous allons avec vous refaire le parcours de l'homme Léon Blois, mais avant cela, deux mots sur l'œuvre violente et sans concession de Léon Blois, des pamphlets, des romans, des essais. C'est une grande œuvre, cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour vous.
Oui, c'est une œuvre énorme au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui, et dans tous les sens du terme d'ailleurs, c'est-à-dire d'une part qui sort de toutes les normes, qui n'appartient à aucune norme, et qui est extrêmement considérable par sa quantité, la quantité de ses pages, de ses publications, et aussi par sa tonalité outrancière.
C'est une œuvre quelque peu oubliée de nos jours. Cependant, elle a influencé de nombreux auteurs. On parle de Céline notamment, et puis très près de nous, quelqu'un comme Maurice Dantec.
Oui, alors bien sûr, on trouve des gens comme ceux que vous avez cités, c'est-à-dire Louis-Ferdinand Céline, Maurice Dantec, mais il faut savoir aussi que derrière ces noms qui sont un peu plus connus du grand public, il a aussi influencé et marqué en tout cas des gens aussi aussi différents que Emmanuel Levinas, pour ne pas le citer, qui est un grand philosophe juif du XXe siècle, et des écrivains aussi bien catholiques et ou chrétiens. Ce qui revient au même, en l'occurrence, comme Bernanos.
Ouais. C'est extraordinaire de pouvoir influencer à la fois Louis-Ferdinand Céline et Emmanuel Levinas. Hein.
Oui, alors c'est un peu ce qui déroute complètement et qui fait que quand on commence à entrer dans l'univers de Blois, on a un peu des craintes parce qu'il est tellement en dehors des clous, si j'ose dire, des clous des conventions, que il brouille complètement les pistes traditionnelles et les clivages d'œuvres aussi opposées et absolument opposées que par exemple celle de Céline à celle de Lévinas ou même Céline à celle de Bernanos, on trouve ces gens-là dans ces grands lecteurs. Je crois même que Paul Claudel aussi admirait beaucoup, entre autres, hein, l'œuvre de Léon Blois.
Oui. On a bien fait, je pense, en tout cas, de citer Emmanuel Levinas, parce que il y a peu de temps, Léon Blois s'est vu offrir, si j'ose dire, un procès post-mortem en antisémitisme, ce qui est tout à fait délirant quand on sait qu'il a écrit un salut par les Juifs, par exemple.
Oui, alors c'est un peu le problème, si vous voulez, que j'ai abordé dans l'essai qui figure en tête du livre. Il faut d'abord tenir compte d'un contexte, hein, d'un contexte historique. C'est la deuxième moitié du 19e siècle. Il existe une sorte d'antisémitisme un peu généralisé, malheureusement, qui aboutira à ce qu'on sait un siècle plus tard, et qu'on va retrouver dans les cercles de gauche aussi bien que d'extrême droite. Et au début de sa carrière d'écrivain, Léon Blois a fréquenté tout d'abord les milieux socialistes, hein, et puis ensuite les milieux catholiques. Mais je dirais que s'il a été marqué par un certain antisémitisme, comme beaucoup d'écrivains de cette période-là, eh bien, il s'en est assez vite dégagé. Et le salut par les Juifs a été une manière de réfuter l'antisémitisme d'un Édouard Drummond, par exemple, qui était une figure très violente à l'époque et qui a produit une œuvre antisémite. Et on voit que peu à peu, Léon Blois va se dégager, va se défaire de cette espèce de haine qui est le fait d'une culture hein, de cette fin du XIXe siècle. Et on voit très nettement dans son œuvre, en tout cas c'est ce qui m'a semblé, qu'il est devenu beaucoup plus libre, il s'est défait de tous ces préjugés, de tous ces, de toute cette espèce d'idéologie haineuse qu'il a réfutée définitivement à partir du salut par les Juifs en 1892, ce qui ne lui a pas valu que des amis.
Ouais. Alors, on va remonter le temps, si vous le voulez bien. Léon Blois est né le 11 juillet 1846 à Notre-Dame de Sanilhac, en Dordogne. Alors, il avait un père franc-maçon et une mère catholique.
Voilà, alors déjà, c'est important, en effet, de souligner le milieu familial dans lequel il évolue. C'est un milieu provincial. Hein. Bon, son père est quelqu'un qui appartient quand même déjà à une classe sociale, on va dire, intellectuellement élevée, puisque son père était ingénieur aux ponts et chaussées. Il est voltairien, hein, franc-maçon, et alors il est l'époux d'une femme qui est absolument à l'opposé de ses convictions, puisque la mère de Blois est d'origine espagnole, et c'est une dévote très importante du catholicisme, et elle est même très mystique. Donc c'est dans ce milieu très contrasté que Léon Blois va vivre une enfance finalement assez douloureuse. Hein. Il est le second d'une famille de 7 enfants, dont 3 frères connaîtront une destinée assez tragique.
Alors au départ d'ailleurs, donc Léon Blois est plutôt, on va dire, un socialiste révolutionnaire, anti-catholique, même anti-clérical, on peut le dire. Hein.
Oui, oui. Alors ça commence, oui, en effet. Je voudrais rappeler avant tout qu'il a aussi été l'élève des frères des écoles chrétiennes. Donc il a eu une éducation catholique, hein, traditionnelle, d'un enfant de la fin du 19e siècle dans la province périgourdine. Il avait commencé d'ailleurs un journal de jeunesse, qui est peut-être une espèce de reflet de l'examen de conscience qu'exigeait en tout cas de manière assez forte l'éducation chrétienne alors. Son père, il s'est assez vite opposé à son père, parce que son père voulait en faire un ingénieur, hein, comme lui, et lui, adolescent, il a préféré le dessin d'art. Alors pour répondre à votre question, c'est pourquoi il est devenu ensuite, il est monté à Paris et en juin 1864, il a exercé le métier de commis d'architecte. Il s'est inscrit à l'école des Beaux-Arts, vous voyez, on retrouve cette ambiguïté. Et c'est à l'époque, justement, c'est à cette époque qu'il est républicain, socialiste et anticlérical, et il ne cesse de crier partout sa haine de Jésus et de son Église.
Ouais. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un de très important dans sa vie et qui occupe aussi une place importante dans l'histoire des lettres françaises, c'est Barbet d'Aurevilly en décembre 68.
Oui, alors c'est très important en effet. Il y a 2 événements qui vont marquer sa vie, enfin sa jeunesse, enfin la fin de sa jeunesse. C'est d'abord la rencontre en effet de Barbet d'Aurevilly, hein, qui est une des grandes figures des lettres de la fin du XIXe siècle, très admiré et un écrivain d'une envergure qui demeure exceptionnelle, hein, parce que c'est pareil, ça fait partie des grandes figures avec Baudelaire, hein, à mon sens, des écrivains du XIXe siècle. Il va devenir son disciple fasciné, il va le rencontrer, il va devenir son secrétaire même et son ami. Et c'est à cette époque-là qu'il va renouer avec la foi catholique romaine de son enfance. Mais il y a un autre événement aussi qui va entrer en ligne de compte, c'est que, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est qu'il a un jour, en entrant dans une église, il est tombé à genoux et il était saisi par quelqu'un, dit-il, de plus fort. Et c'est à cette occasion qu'il s'est, si j'ose dire, reconverti au christianisme.
Ouais, c'était vraiment une rencontre, hein, comme pour Max Jacob, par exemple, déshabillé par la foudre. Ou Claudel.
Exactement, c'est exactement la même. Claudel connaîtra la même aventure, si j'ose dire, mystique, plus tard, et c'est tout à fait le même mystère qui se produit à l'égard de Léon Blois, et c'est extrêmement, je pense que ça interroge beaucoup les lecteurs de voir comment quelqu'un qui était en effet très anticlérical, un socialiste républicain de cette fin du XIXe siècle, très idéologiquement marqué, comment paradoxalement la foudre comme ça peut lui tomber dessus et renverser complètement ses... l'individu. Et quand on connaît Léon Blois, c'est vrai que on est très surpris qu'il y ait eu un tel retournement.
Ouais. Alors, et comme souvent chez les nouveaux convertis, la foi est ardente et le pousse vers les milieux catholiques très traditionnalistes. Est-ce que ça, on peut le dire ?
Oui, oui. Il va revenir à Paris en 1873. Il va devenir un peu, enfin, il va travailler comme journaliste. Il est très intransigeant. D'ailleurs, au point de se fâcher avec la plupart de ses collègues journalistes. Il est intolérant, violent dans ses propos. Et il fréquente alors les réseaux de Blanc de Saint-Bonnet, d'Ernest Hello, de Rosélie Lorgue, par exemple. Et il commence en fait son œuvre par un hommage en 1875 adressé à son ami et maître et mentor Barbé d'Aurevilly.
Alors il ne faut pas oublier non plus le passage de Léon Blois dans l'armée pendant la guerre de 1870, parce qu'il s'est montré vraiment, il a montré l'envergure d'un héros.
Oui, en 70, il s'est engagé et son contingent a fait, bon, il a fait la guerre, enfin, il a participé à cette guerre de manière très très active. Et je pense que, comme beaucoup d'écrivains de cette époque-là, il a été extrêmement marqué par la violence de cette guerre de 1870, ce qui va retrouver, hélas, en 1914. Puisque donc il sera complètement désespéré par cette nouvelle guerre qui commencera peu avant qu'il meure finalement, parce qu'il mourra en 1917.
Alors après la guerre, Léon Blois retourne à Paris et il entre dans un grand quotidien catholique, L'Univers, qui est dirigé par Louis Voyot. Là on se dit, eh ben tout va bien finalement, il trouve sa place. Ben non, parce que là encore, là, on ne le supporte pas non plus, on ne supporte pas son intransigeance.
Oui, oui. Alors je pense, enfin, comme vous dites, les choses sont toujours un peu difficiles, parce qu'on a l'impression, en regardant la vie de Léon Blois, qu'il avait l'art un peu de se fâcher avec toutes les personnes qui étaient ses amis. Alors, sauf, à part, bien sûr, Barbé d'Aurevilly et les amis qu'il rencontrera plus tard, je pense aux Maritains, par exemple, hein, et quelques autres fidèles, on remarque en effet que son intransigeance et son caractère difficile, sans doute, hein, va le faire, rompre avec... ou se fâcher avec la plupart de ses amis, que ce soit des amis journalistes, que ceux dont vous parlez, par exemple, de l'Univers, aussi bien que ceux des cercles d'écrivains.
Son intransigeance, elle est de quelle nature ? Que dit-il qui secoue, on va dire, les consciences ?
Bon, il y a le fond et la forme, si j'ose dire, qu'on va retrouver dans son œuvre, c'est-à-dire que pour ce qui concerne le ton dont je parlais, c'est-à-dire la forme, c'est une manière de manier la langue qui est absolument rare, hein. Je veux dire, moi, personnellement, en tant que lecteur du XXIe siècle, quand je lis l'œuvre de Blois, je suis absolument frappé par la force de ses propos, la violence de son écriture. Donc il y a une parole extrêmement drue, abrupte, cassante, violente et exorbitante un peu, hein, si j'ose dire, ou exorbitée. Enfin, c'est difficile de trouver les mots, tellement c'est extraordinaire, hein. Et d'autre part, sur le fond aussi, sa vision du catholicisme est un catholicisme, un christianisme en tout cas de catacombes, un christianisme de la pauvreté radicale, hein, du refus de l'argent, du refus de toute concession. On est vraiment dans une démarche d'imitation de la vie du Christ. Hein. C'est quelque chose d'absolu. Voilà.
Ouais. Oui, on va dire que l'Église triomphale, victorieuse, c'est pas son truc, quoi. Hein.
Ah non, non. Pas du tout. Il est dans une. Non, non. Il est dans le. Dans une église, de, si j'ose dire, de bas-fond, quoi, plutôt de. Dans un christianisme de la misère, de la pauvreté. On pourrait plus le rapprocher de l'approche un peu franciscaine. Vous voyez, c'est-à-dire cette espèce de dénuement perpétuel, ce refus de toute richesse matérielle et cette une haute exigence, une grande verticalité spirituelle.
Alors, sa vie va basculer en 1877, il perd ses parents et il effectue une retraite à la Grande Trappe de Soligny. Et plusieurs fois dans sa vie, je crois qu'il aura cette tentation de la vie monastique sans réellement aller jusqu'au bout de son intention.
Oui, je ne sais pas si c'est plusieurs fois dans sa vie, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cet épisode donc de sa fréquentation de monastère. Il y a aussi un autre événement en 1877, hein, c'est sa rencontre de l'abbé Tardif de Moidray, qui est un prédicateur qui va l'initier à l'exégèse symbolique et qui est aussi un fervent du message de la Vierge apparue sur la montagne de la Salette.
Ouais, ça, oui, c'est important pour lui, la
Salette. Et ça va devenir une chose extrêmement importante aussi pour Barbet de Révilly. Et il va donc, en effet, avoir l'occasion de retraite, enfin d'une retraite en tout cas, dont il va parler dans une de ses œuvres, au début d'une de ses œuvres, dans de ses romans, et une retraite qui va finalement, j'allais dire, un peu échouer, parce que il n'entrera pas dans les ordres, hein, il retournera dans la vie laïque.
Oui, non seulement il rentre pas dans les ordres, mais il va traverser une période assez terrible en rencontrant Anne-Marie Roulet, une prostituée occasionnelle.
Alors ça fait partie un peu des paradoxes, hein, et de l'énormité, si j'ose dire, au sens étymologique toujours, de la vie et de l'œuvre, hein, de Blois, parce que l'homme était un peu comme l'œuvre, c'est-à-dire cette espèce de manière de mêler les choses les plus opposées. C'est-à-dire, par exemple, cet appel absolu du divin, cette recherche d'un Dieu absolu, et d'autre part, cette manière de plonger dans la fange et dans la boue, hein, parce que sans vouloir accabler du tout Anne-Marie Roulet, cet amour va être complètement débridé s'il s'agit d'une prostituée, hein, qu'il a rencontrée. Et donc le pèlerin adorateur de Notre-Dame de la Salette va vivre des amours absolument débridés avec une prostituée, ce qui vous avouerez est assez surprenant. Ça se terminera d'ailleurs d'une manière extrêmement tragique, hein, puisque comme vous savez, Anne-Marie Roulet va être atteinte de folie mystique et sera internée et mourra dans la misère absolue en 1907. Oui. Donc cette histoire d'amour est digne des romans les plus sombres et les plus tragiques qui soient.
Ouais. Est-ce que cette aventure de Anne-Marie Roulet n'est pas...
Encore, on peut trouver, si vous voulez, une dimension chrétienne, puisque c'est précisément la rédemption du péché, finalement, hein, que recherche peut-être Léon Blois. C'est une sorte de Marie-Madeleine, cette Anne-Marie Roulet, hein, pour lui. Et il arrive un peu à faire de la chair une sorte de mystique.
Ouais. Et vous me pardonnerez, je vais me faire l'avocat non pas du diable, mais du psychanalyste. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme un peu névrotique, finalement, de la vie mystique dans cette histoire avec Anne-Marie Roulet?
Si, non, mais je pense que, sans être psychologue, je crois qu'il faut... il faut sans doute parler d'une sorte de névrose. Alors là, d'où vient la névrose? C'est une névrose familiale. On pourrait facilement peut-être évoquer le couple parental, deux personnalités totalement opposées, et peut-être que cette espèce de vie amoureuse en a été un peu l'héritage. Mais d'une manière générale, on peut remarquer que la vie amoureuse, aussi bien que la vie familiale qui va suivre, aussi bien que sa vie d'écrivain, aussi bien que sa vie donc littéraire, elle est toujours marquée par le malheur. Donc il y a une espèce de... C'est pour ça que vous avez, je pense, raison, et que vous voulez plutôt évoquer une sorte de névrose d'un christianisme assez sombre, finalement, marqué par la douleur, par la passion, finalement, qui est une imitation du Christ, mais surtout dans sa passion. Et je pense que la vie pour Léon Blois la traversée de la vie, c'est un peu une espèce de longue passion mystique.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une spiritualité qui est vraiment typique de la fin de ce 19e siècle?
Oui, je pense que il est tout à fait l'expression enfin, du christianisme, on pourrait dire sombre, hein, de cette fin du XIXe siècle. Et au risque de choquer peut-être certains auditeurs, je le rapprocherai finalement beaucoup de Charles Baudelaire, hein, car chez Baudelaire, on va retrouver cette espèce de mélange très très sombre, alors avec plus de mélancolie chez Baudelaire et moins de mystique. Mais on va retrouver ce mélange de la chair et de Dieu, hein, un peu dans l'œuvre de Baudelaire, et d'un Dieu assez sombre, certes marqué quand même par la miséricorde et la charité.
Ouais. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la rencontre avec la Salette a été très importante pour Léon Blois. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire ce qu'ont été les apparitions de la Salette pour un public qui l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui?
Alors bon, je vais être rapide, mais il s'agit donc de la Vierge qui serait apparue donc sur la montagne de la Salette. Il se trouve que elle est apparue 2 mois après sa naissance, qui pour lui a une signification encore plus importante. Il a donné 2 œuvres, hein, à propos de ces apparitions et du message assez sombre que la Vierge a prononcé, hein, à l'occasion de ces apparitions. Il a donné donc une œuvre qui s'appelle Celle qui pleure en 1908. On voit que le titre n'est pas particulièrement heureux. Et un autre titre qui s'appelle Vie de Mélanie, où il raconte un peu la vie d'une jeune femme à qui est apparue la Vierge.
Ouais, ouais. Alors, Léon Blois a développé l'idée, sous l'influence, hein, de l'abbé tardif du Moindre dont vous avez parlé tout à l'heure, l'idée d'un symbolisme universel qu'il applique même à sa propre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, c'est ça. Le tardif de Moindre, qui est un abbé qui était un prédicateur très érudit et qui l'a initié à ce qu'on appelle l'exégèse symbolique. C'est-à-dire que c'est une manière de relire sa vie systématiquement à la lumière des symboles christiques. Donc c'est un peu ce que je disais, hein, d'une manière générale, quand on considère la vie et l'œuvre, enfin surtout la vie de Léon Blois, on a l'impression d'une sorte de sacrifice christique, hein, de quelqu'un qui a revécu la passion du Christ et qui revit toute sa vie à cette lumière-là de calvaire et de rédemption, si j'ose dire.
Alors, sur un plan strictement littéraire, il publie son premier livre en février 1884. C'est un livre sur Christophe Colomb. Et puis, presque aussitôt, un recueil d'articles. Alors là, je donne le titre « Propos d'un entrepreneur de démolition ». On dirait presque un titre de Cioran, je trouve.
Avant ces 2 œuvres, hein, il faut quand même signaler qu'il a déjà publié des choses, comme je vous l'ai dit, parce que la première œuvre, je pense, qu'il a composée, qu'on retrouve en manuscrit d'ailleurs, est une œuvre qui s'appelle La Méduse Astruc. Hein, je passe rapidement, il s'agit d'un hommage à Barbé d'Aurevilly. Et ensuite, il a écrit son premier récit, qui s'appelle La Chevalière de la Mort, qui est consacré à la figure symbolique de Marie-Antoinette, hein, en 1877. Après, il y aura donc, en effet, ces 2 œuvres dont vous parlez. Hein. Entre-temps, il aura collaboré au Chat Noir et à la Plume pour vous dire un peu quelles sont les étapes de sa vie, et sachant que peu avant, il a fréquenté la Trappe. Donc, on est passé, en gros, de la Trappe au Chat Noir et à la Plûme, avec Huysmans, avec Villiers de l'Isle-Adam. Et donc, il connaît l'insuccès, malgré ses pamphlets dans Figaro, que vous citez, c'est-à-dire les propos d'un entrepreneur de démolition en 1884, et l'apologie de Christophe Colomb qui l'a intitulé Le révélateur du globe. Ouais. Hein, puisqu'il a une manière aussi de lire les grands personnages de l'humanité, en tout cas de l'Occident, comme étant des seconds Christ qui sauvent le monde et qui font avancer le monde. Alors, les propos d'un entrepreneur de démolition n'ont rien à voir avec l'apologie de Christophe Colomb, hein, dont je parlais, c'est-à-dire du révélateur du globe, c'est le titre employé par Léon Blois. Les propos d'un entrepreneur de démolition sont de la veine un peu outrancière et extrêmement critique et satirique que Blois emploie à l'égard des écrivains, de certains écrivains qu'il déteste ou de certaines idées aussi qu'il réfute.
Nous reprendrons le cours de la vie et de l'œuvre de Léon Blois en compagnie de Yves Leclerc la semaine prochaine dans la deuxième émission La vie de l'esprit consacrée au grand écrivain et pamphlétaire catholique. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt.